Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est parti pour Contre-Histoire. Alors aujourd'hui, on va parler de Côte d'Ivoire. Donc nous retournons en Afrique, il y avait longtemps. On va évoquer la conférence qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à la salle aux Zettes, conférence de David Mauger, sur le livre qu'il a rédigé avec Raphaël Granvaux et qui s'appelle « Pompier pyromane ». Un pompier pyromane, eh bien, vous vous en doutez peut-être, le pompier, c'est la France. Alors, ce livre est paru dans la collection parrainée par Survie, chez Agone. On va vous dire quelques mots de l'association Survie. Survie est une association loi 1901 créée en 1984 qui mène des campagnes d'information des citoyens et d'interpellation des élus pour une réforme drastique de la politique de la France en Afrique et des relations Nord-Sud. Elle fonde son action sur la légitimité qui incombe à chacun d'interpeller ses élus et d'exiger un contrôle réel des choix politiques faits en son nom. L'engagement de Survie repose sur un constat. Les problèmes de développement et la pauvreté dans les pays du Sud ont avant tout des causes politiques. C'est donc dans le champ politique qu'il convient d'agir. Survie réalise un travail d'enquête et d'analyse critique, dénonce les agissements de la France-Afrique et promeut, après des décideurs, une autre relation France-Afrique. Elle publie une revue mensuelle qui s'appelle Billets d'Afrique, accessible sur abonnement et en partie en ligne sur survie.org/billets au pluriel, -6d-afrique/. Voilà. Son travail s'appuie sur des partenariats en France et en Afrique, qui permettent de mener des actions conjointes, campagnes de sensibilisation et de mobilisation sur le pillage des ressources naturelles, le soutien aux dictateurs, les élections truquées, le génocide des Tutsis du Rwanda, etc. Manifestations en marge des sommets officiels de chefs d'État, notamment à Nice en 2010, plaidoyers, etc. Survie refuse tout don de partis politiques, de mouvements religieux ou de syndicats. Les cotisations des adhérents assurent l'indépendance financière et par conséquent la liberté de ton et d'analyse des associations. Alors l'association Survie, j'espère qu'elle vous intéresse. Son adresse c'est 107 boulevard de Magenta, Paris 10e, 75-010 Paris. Et même le téléphone 01 44 61 03 25. Voilà. Et le courriel, l'adresse contact@survie.org et le site internet survie.org. Voilà, vous savez presque tout sur Survie.
Comment est-ce que, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la Côte d'Ivoire? Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez peut-être qu'il y a un ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui actuellement est détenu à La Haye, avec une inculpation de crimes contre l'humanité. C'est un procès qui s'est ouvert en 2013, et à ce stade, aujourd'hui, en 2018, c'est à peu près la moitié du procès seulement. Donc les accusations contre Laurent Gbagbo sont extrêmement lourdes et actuellement donc on en entend parler un petit peu dans l'actualité, mais peut-être beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'ici en France, parce qu'il est question d'une libération provisoire de Laurent Gbagbo, et il est aussi question peut-être dans quelques mois d'une libération définitive, puisqu'il est question d'abandonner les charges contre lui. En fait, le procès qui a lieu en ce moment, l'accusation a produit un certain nombre de témoins qui, pour la plupart, se sont révélés soit à décharge pour Laurent Gbagbo, ou bien en tout cas n'ont pas permis d'étayer les accusations de crimes contre l'humanité. Alors cet épisode, le procès qui a lieu actuellement, il vient après un épisode qui a eu lieu en 2011, En Côte d'Ivoire, en 2010-2011, il y a eu des élections dans un contexte très particulier dont je vais vous parler tout à l'heure. Et à la suite de ces élections, il y a le président sortant, Laurent Gbagbo, qui s'est prévalu comme étant le vainqueur des élections, et l'un de ses opposants, Alassane Ouattara, qui a été celui qui a été reconnu par la communauté internationale. Et donc les élections ont débouché sur un conflit qui a duré pendant à peu près 5 mois, à l'issue duquel on a pu voir sur les télévisions françaises une intervention armée de l'armée française à Abidjan pour dénouer la crise post-électorale, c'est-à-dire pour enlever Laurent Gbagbo du pouvoir et installer de cette façon Alassane Ouattara. Alors à l'époque, dans les télévisions françaises, on nous a expliqué que Laurent Gbagbo n'avait pas reconnu le résultat des élections qui donnait Alassane Ouattara comme étant le vainqueur, et qu'il avait fallu utiliser les armes finalement pour lui faire céder le pouvoir. L'intervention française a été une intervention armée lourde, avec l'intervention d'hélicoptères dans Abidjan, qui ont bombardé un certain nombre d'endroits d'Abidjan. Les blindés français ont fini par enfoncer la portail de la résidence présidentielle, et c'est ainsi que Laurent Gbagbo a été arrêté, avant, quelques mois plus tard, d'être finalement remis à la CPI. Et donc il y a eu toute une couverture médiatique de cette crise ivoirienne, où dans les grands médias on nous a expliqué que Laurent Gbagbo refusait de quitter le pouvoir, et que c'était au nom de la défense de la démocratie et de la défense des droits de l'homme que l'armée française intervenait à Abidjan. Donc ça, c'est un récit médiatique qui est relativement loin de la réalité, ou en tout cas, ignore un certain nombre de faits sans lesquels on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La France a fait voter au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution au mois de mars 2011 pour légitimer son intervention. Donc cette résolution, en fait, elle stipulait que par tous les moyens nécessaires, à la fois les casques bleus présents sur place en Côte d'Ivoire et la force licorne, c'est-à-dire le nom sous lequel s'est déroulée l'opération militaire française, ces deux forces devaient faire respecter la défense des civils et empêcher les armes lourdes d'être utilisées. Alors si on compare un petit peu le mandat qui a été donné à la France et l'action sur le terrain, on peut s'étonner, par exemple, que les principales victimes de cette crise post-électorale n'ont pas eu lieu à Abidjan, endroit où la force française s'est exercée, mais ont eu lieu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Bouikoué, et où il y a eu, à la fin du mois de mars, en l'espace de deux jours, entre 800 et 1000 morts parmi les civils. Et là, il y a eu une enquête de l'ONU qui a montré que les casques bleus qui étaient présents sur place ne sont pas intervenus. Alors, officiellement, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Et les hélicoptères français ne sont pas venus non plus pour mettre fin au massacre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la résolution de l'ONU a servi à légitimer aux yeux de l'opinion publique une intervention armée. Mais on a violé le mandat qui était donné, c'est-à-dire qu'on n'a pas été protégé les civils là où il aurait fallu le faire. On ne s'est intéressé qu'à la question du pouvoir et de l'alternance, donc à Abidjan. Pour faire un petit parallèle, 2011, donc c'était sous le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est aussi à peu près à la même époque que la France est intervenue en Libye. Et on sait aujourd'hui, où on soupçonne fortement, que Nicolas Sarkozy avait des arrière-pensées lorsqu'il a lancé une opération militaire pour faire tomber Kadhafi. Voilà, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est mis en examen parce qu'il y a des soupçons de financement de sa campagne électorale de 2007, notamment par de l'argent qui venait du colonel Kadhafi. Donc, je pense que le parallèle est à faire avec dans le cas ivoirien, parce que dans les deux cas, il y a eu une violation de la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut bien voir que le Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents, qui sont ceux qui sont généralement à l'initiative des résolutions. Donc, parmi ces 5 membres permanents, il y a la France, à ses côtés, il y a la Russie, la Chine, et il y a surtout le Royaume-Uni, et les États-Unis, et ces 3 pays-là, les 3 pays occidentaux, forment un noyau important du Conseil de sécurité et en général se mettent d'accord sur les résolutions qu'ils vont voter. Et là, visiblement, ces 3 pays se sont mis d'accord pour qu'il y ait une intervention française forte, que ce soit en Libye, que ce soit en Côte d'Ivoire.
Said, look at little boy, ain't that a crying shame? I said, why? He said, oh, ooh, ouch, 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 He said, I got a stomachache. Hey!
Alors maintenant, ça c'est la partie officielle de ce qu'on nous a montré. En fait, la crise ivoirienne, elle ne démarre pas du tout en 2010. Elle prend ses racines depuis bien plus longtemps. Et donc elle a été déclenchée notamment, on va dire, à partir de 1999. Il va y avoir une dizaine d'années de crise politico-militaire extrêmement importante en Côte d'Ivoire. Mais avant d'en venir à cette époque-là, on va faire un petit retour en arrière, en 1960. Donc 1960, c'est l'année à laquelle une quinzaine de pays accèdent à l'indépendance, donc des anciennes colonies françaises en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Et c'est aussi l'époque toute récente de la Ve République. Et au même moment où on accorde des indépendances à ces pays-là, il y a un certain nombre d'institutions qui se mettent en place et une certaine politique occulte de la France qui, au contraire de ce mouvement vers l'indépendance, va tout faire pour que la France garde une mainmise sur ses anciennes colonies. Donc en 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante, mais moins d'un an plus tard, en 1961, il y a un accord de défense qui est signé entre la France et la Côte d'Ivoire. En fait, pas seulement avec la Côte d'Ivoire, il y a aussi trois autres pays d'Afrique de l'Ouest qui sont signataires. C'est le Dahomey, c'est-à-dire le Bénin d'aujourd'hui, la Haute-Volta, le Burkina Faso, et le Niger. Et donc cet accord de défense, il permet aux troupes coloniales françaises de ne pas quitter notamment la base qui se trouve à Abidjan. C'est-à-dire que malgré la décolonisation, les soldats français n'ont jamais quitté le sol ivoirien. Aujourd'hui, il y a toujours la base militaire de Bangoué, à côté de l'aéroport à Abidjan, sur lequel stationnent les militaires français. Il y a trois autres bases permanentes françaises en Afrique. La plus importante est à Djibouti, la deuxième plus importante en nombre est à Abidjan, et il y en a deux autres, l'une à Dakar, au Sénégal, et l'autre à Libreville, au Gabon. Donc ça, c'est le pilier militaire tout à fait officiel de ce que nous, on appelle la France-Afrique, qui est donc le fait que, malgré les indépendances, nos soldats sont toujours sur le sol africain. Le deuxième pilier officiel, là aussi, c'est le franc CFA, donc qui, à l'origine, signifie « franc des colonies françaises d'Afrique ». Et même s'il a changé de dénomination aujourd'hui, ce système existe toujours. C'est-à-dire qu'on a une monnaie coloniale qui s'exerce dans deux zones en Afrique, la zone d'Afrique de l'Ouest, donc fait partie de la Côte d'Ivoire, et la zone d'Afrique centrale. Donc ça permet notamment à la France de garder à Paris la moitié des réserves de change de ces pays-là. Et tous les six mois, il y a des réunions des ministres des Finances de la zone franc avec des représentants de la Banque de France et du Trésor français où va se décider la politique monétaire pour ces pays-là. Donc voilà le deuxième pilier officiel, c'est le pilier monétaire. Maintenant, il y a une troisième facette à cette France-Afrique qui est une politique de réseau et une politique de violence pour mettre en place un certain nombre de régimes qui lui soient favorables. Donc, il va y avoir notamment des assassinats de leaders politiques, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit en Centrafrique. On va éliminer des gens qui ne font pas l'affaire de la France. Et la personne qui est chargée de piloter cette politique-là, c'est Jacques Foccart, qui a son bureau à l'Élysée, aux côtés du général de Gaulle. Officiellement, c'est lui qui est en charge des affaires africaines et malgaches auprès de Gaulle. En fait, son véritable rôle, c'est d'entretenir des liens à peu près quotidiens avec un certain nombre de personnes qui ont été mises en place dans les anciennes colonies françaises. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs de manière assez ironique, c'est le premier président ivoirien, Fouad Boigny, qui est réputé avoir employé le premier le terme de France-Afrique. Donc, Fouad Boigny, lui, dans ce terme, il y met quelque chose d'extrêmement positif. Il souhaite, en fait, il va reculons à l'indépendance, et il souhaite que la Côte d'Ivoire garde les liens les plus forts possibles avec l'ancienne métropole. Alors, la raison de cette position, c'est qu'il a déjà une carrière politique longue en France. En 1960, Fouad Boigny était ministre d'État. Il fait partie des gens qui ont rédigé la Constitution de la Ve République. Donc il a déjà une très longue carrière politique en France, et lui, il ne voit pas du tout l'intérêt que le territoire dont il est issu, la Côte d'Ivoire, devienne indépendant. Et donc il va faire partie de ces gens qui vont être mis en place, qui vont faire le bonheur des intérêts français, et il va, dit-on, avoir des conversations quasiment quotidiennes avec Jacques Foccart. Alors, la plupart des Ivoiriens gardent de cette époque de Fouad Boigny, qui va durer 33 ans, puisqu'il va rester au pouvoir de 1960 à 1993, date de son décès. La plupart des Ivoiriens gardent plutôt une bonne image de cette époque de Fouad Boigny, parce que c'est quelqu'un qui, sous son régime, la Côte d'Ivoire était plutôt dans une atmosphère politique calme. En fait, ça cachait aussi le fait que les opposants étaient très durement réprimés. Il y a eu un certain nombre de faux complots contre les opposants au Fouad Boigny. Il y a eu un certain décollage économique, c'est-à-dire que Fouad Boigny, qui lui-même était propriétaire terrien, a continué la politique mise en place sous l'époque coloniale, où on a voulu faire de la Côte d'Ivoire une immense plantation. En fait, la Côte d'Ivoire a un sol extrêmement riche, extrêmement fertile. Les colons avaient fait des plantations déjà de café, de cacao, d'EBA, et de Pamiaville aussi, et Oufoué, lui-même propriétaire terrien, a continué complètement sur cette lancée-là. Et tant que le prix des matières premières était relativement élevé, ce qui a été le cas jusqu'à la fin des années 70, eh bien, il y a eu un démarrage économique de la Côte d'Ivoire, qui malheureusement ne s'est pas traduit par un développement industriel. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, est principalement exportatrice de matières premières agricoles, et ce qui fait qu'elle est complètement à la merci des cours des matières premières agricoles. Alors, jusque dans les années 70, donc ça a marché plutôt bien, mais en revanche, à partir du début des années 80 et surtout vers la fin des années 80, les prix des matières premières a considérablement chuté, en tout cas en ce qui concerne le café et le cacao, et ça a été le début d'une grave crise, d'abord au niveau économique. Thank you. Donc ça, c'est sous l'ère Houphouët. Pour en revenir quand même à Houphouët, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement riche. Il a construit l'un des symboles aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui est la basilique de Yamoussoukro, qui, dit-on, est plus grande que Saint-Pierre de Rome. Et Houphouët-Boigny a financé la construction de cette basilique sur ses propres deniers. Donc vous pouvez imaginer un petit peu la perméabilité entre sa cassette personnelle et le trésor ivoirien. Par ailleurs, Houphouët a été le relais de la France pour mener un certain nombre de déstabilisations en Afrique de l'Ouest. Ça a été vrai notamment à la fin des années 60 avec la guerre du Biafra. Donc le Biafra, c'est cette province du Nigeria, côtière, qui est relativement riche en pétrole. En 1967, il me semble, il y a eu donc une déclaration de sécession de la part de certains leaders biafrais. Il y a eu une guerre civile extrêmement importante. Dans les médias français, on nous a parlé d'un génocide, où donc, on a envoyé des photos d'enfants biafrais décharnés, parce qu'il y a eu un blocus décidé contre cette région-là de la part des militaires nigérians. Et la guerre a duré, il y a eu effectivement beaucoup de civils qui sont morts, et il y a eu une campagne de presse en France pour qu'on en vienne en aide aux civils biafrais. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, et notamment, il y a eu tout un travail de mise à jour d'archives de la part de Ronnie Broman, un ancien président de Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières sera créé quelques années après la crise biafraise, et ça va être mais la création de MSF prend vraiment racine dans ce qui s'est passé au Biafra. À l'époque, c'était Bernard Kouchner qui, au nom de la Croix-Rouge, était l'une des personnes qui allait sur place pour soigner des civils biafrais. Et donc, ce qui a été mis à jour bien des années plus tard, c'est que dans les mêmes avions qui amenaient de l'aide humanitaire, du riz, des médicaments au Biafra, il y avait aussi des armes qui arrivaient pour les sécessionnistes biafrais. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une partie des stocks d'armes destinés à la Côte d'Ivoire, au nom des accords de défense, ne faisait que transiter à Abidjan et était envoyée au Biafra, et servait donc la sécession biafraise. Paris ne soutenait pas de manière très officielle cette sécession, mais Focard et Houphouët ont formé une alliance à ce moment-là. Il y a eu des témoignages des gens des services français aussi, pour montrer qu'il y avait un soutien français relativement fort, mais officieux, à ces sécessionnistes biafra. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a un quartier qui s'appelle Biafra, parce qu'à la fin des années 60, lorsque la sécession a tourné court et que ça a été une catastrophe, une partie des élites biafraises ont été accueillies par Houphouët-Boigny à Abidjan. Donc ça, c'est un exemple, en fait, où Houphouët-Boigny a vraiment servi de relais à la France pour une déstabilisation. On peut citer aussi le cas de l'assassinat de Thomas Sankara, qui était à couteau tiré avec Houphouët-Boigny, et dans lequel, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels sont les auteurs directs de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. Mais on sait en tout cas que c'était quelqu'un, un leader qui était extrêmement mal vu par les autorités françaises, par Houphouët-Boigny lui-même, et il y a sans doute eu un rôle là aussi dans ce qui s'est passé en 1987 lors de cet assassinat. Et un autre exemple, c'est la guerre du Libéria, où là il y a eu à nouveau des livraisons d'armes qui venaient du Burkina Faso et qui transitaient par la Côte d'Ivoire. À partir de 1990, donc qui est la date de déclenchement d'une rébellion extrêmement sanglante au Libéria. Donc voilà, cette époque d'Houphouët, au plan intérieur, c'est une époque relativement calme. C'est un régime de parti unique, extrêmement fort, jusque dans le milieu des années 80. Et au plan extérieur, donc Houphouët a été l'un des meilleurs promoteurs de ce modèle de la France-Afrique. Thank you.
a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. A spell on you because you're mine. You're mine.
Alors, à la fin des années 80, comme je vous ai dit, il y a eu une très grave crise économique. Et pour la première fois, Oufouette va nommer un Premier ministre. Ça, c'est en 1990, donc 3 ans avant son décès. Et celui qui devient le Premier ministre en 1990 s'appelle Alassane Ouattara. C'est le président ivoirien actuel. En fait, Alassane Ouattara, en 1990, très peu d'Ivoiriens le connaissent. C'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans les grandes institutions financières internationales. D'abord à la BCAO, la banque qui gère le franc CFA pour la zone ouest africaine. Et par la suite, il a été directeur Afrique au sein du Fonds monétaire international. Et s'il est nommé Premier ministre, c'est parce que, à cause de la grave crise économique, la Côte d'Ivoire fait appel à l'aide du FMI et de la Banque mondiale, un petit peu comme la Grèce, beaucoup plus récemment, a pu faire appel à l'Union européenne. Cette aide arrive, mais avec des contreparties, avec la mise en place de plans d'ajustement structurel. Donc ces plans d'ajustement structurel, ça va être la fin de l'école gratuite en Côte d'Ivoire, ça va être des coupes dans les budgets sociaux, et ça va être une vague de privatisation. Au cours de ces privatisations, il y a notamment un certain nombre d'intérêts français vont remporter des marchés en Côte d'Ivoire. Bouygues, qui était déjà très présent dans le domaine de la construction, va remporter à ce moment-là le marché de la distribution de l'eau, le marché de la distribution d'électricité. Bolloré, qui était déjà présent dans les plantations, remporte le marché du ferroviaire. Il y a une ligne de chemin de fer qui va d'Abidjan jusqu'au Burkina Faso. Et Bolloré, par la suite, obtiendra aussi la gestion du port d'Abidjan, du terminal à conteneurs. Donc voilà pour citer deux groupes emblématiques de la présence française en Côte d'Ivoire. Mais la présence française est vraiment multiforme en Côte d'Ivoire. On estime qu'au début des années 80, il y avait de l'ordre de 50 000 expatriés français sur le sol ivoirien. Et ces expatriés, ça peut être des gens qui ont leur propre PME, ça peut être des coopérants français qui sont dans les cabinets ministériels, qui sont au sein de l'armée ivoirienne. Donc à tous les niveaux de l'administration ivoirienne, il se trouve très souvent des Français. J'ai lu dans les jours qui précèdent un extrait d'un livre de Serge Mikhailov, qui est un ancien directeur de l'Agence française de développement, et qui explique que dans les années 80, il était venu à Abidjan au nom de la Banque mondiale pour négocier, alors je ne sais plus de quoi est-ce qu'il était question exactement, mais en tout cas il avait rencontré une délégation officielle ivoirienne et il avait été assez choqué de voir que le chef de délégation était bel et bien ivoirien, mais que tous les autres étaient des Français, en fait. Et il négociait, soi-disant, pour le compte de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, la présence française est très très importante en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit qu'il y a encore de l'ordre de 10 à 15 000 expatriés, dont une bonne partie sont des binationaux. Alors donc Alassane Ouattara, en fait, est l'homme qui est nommé Premier ministre pour mener ces plans d'ajustement structurel. Il y a deux autres personnes importantes sur la scène politique au moment du décès d'Oufoué. C'est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Henri Conan Bédié, qui lui est l'héritier du Parti unique. C'est quelqu'un qui est là pour assurer un petit peu la continuité et la constitution, d'ailleurs, fait que c'est lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, qui devra assurer l'intérim lorsque Oufoué va décéder en 1993. Le troisième personnage politique très important, c'est Laurent Gbagbo, celui que j'évoquais tout à l'heure, qui, lui, dans les années 80, va fonder un parti clandestin en Côte d'Ivoire, donc encore sous le régime du parti unique. Il va fonder, mais pas lui seulement, mais il va faire partie des fondateurs du Front populaire ivoirien. Et donc, le Front populaire ivoirien va devenir officiel au moment où sera appliqué enfin le multipartisme en Côte d'Ivoire, ce qui aurait dû être le cas dès 1960, c'était prévu dans la Constitution, mais ça n'a pas été possible jusqu'au milieu des années 80. Et donc, Laurent Gbagbo va être, on qualifie d'opposant historique à Oufoué Boigny, c'est le premier qui va se présenter à une élection présidentielle face à Oufoué. Et en 1986, il va faire de l'ordre de 18% à peu près. Contre Oufoué Boigny, et lui raconte de manière un peu ironique que le score lui avait été annoncé depuis Paris avant les élections. On ne sait pas si c'est vrai. Donc voilà, au moment du décès d'Oufoué, les trois grands leaders politiques qui existent en Côte d'Ivoire. Alors de 1993 à 1995, l'intérim du pouvoir va être assuré par Bédié, donc, qui est le président de l'Assemblée nationale. Alors en 1995, il y a de nouvelles élections présidentielles où Bédié voit en Alassane Ouattara un concurrent très dangereux. À l'époque, Ouattara est réputé avoir des soutiens notamment à Washington et les Français se méfient beaucoup de lui. Et Bédié va mettre en place ce qu'on appelle la politique de l'ivoirité pour disqualifier Alassane Ouattara de la course à la présidentielle. En fait, l'ivoirité, ça va être notamment une loi électorale qui stipule que pour se présenter à l'élection présidentielle ivoirienne, il faut être non seulement ivoirien, mais aussi de père ivoirien et de mère ivoirienne. Et ça élimine Alassane Ouattara de la course à la présidentielle. À l'époque, avant 1995, face à Bédié, il y a eu une alliance électorale qui s'appelle le Front républicain, qui est une alliance entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Alors c'est un petit peu difficile à comprendre quand on connaît la suite des événements, mais à l'époque, ces deux hommes-là étaient alliés dans l'espoir de venir à bout du président sortant, du président par intérim, Bédié. Et donc, par solidarité, Laurent Gbagbo, puisque Alassane Ouattara ne peut pas se présenter à la présidentielle, il décide lui non plus de ne pas concourir à l'élection présidentielle. Et du coup, Bédié va être réélu sans aucune difficulté en 1995. Là, je viens de vous parler d'ivoirité dans son versant législatif. L'ivoirité, c'est aussi toute une idéologie qui va être mise en place par un certain nombre d'universitaires autour d'Henri Conan Bédié et qui vont produire des travaux qui visent notamment à classer les Ivoiriens, depuis les Ivoiriens multiséculaires, ceux arrivés de longue date en Côte d'Ivoire, soi-disant, jusqu'aux Ivoiriens de circonstance. Et jetant ainsi un doute sur la nationalité d'un certain nombre de personnes originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Le but, c'est d'empêcher de voter les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont réputés être plutôt favorables à Alassane Ouattara. Donc ça, c'est le deuxième versant de l'ivoirité. Mais cette ivoirité n'a jamais dégénéré en conflit au au sein des populations ivoiriennes. C'est-à-dire que dans une même famille, il peut y avoir des gens originaires du nord, du sud, de l'ouest de la Côte d'Ivoire sans que ça pose de problème. Il y a un musulman peut se marier avec une chrétienne ou vice-versa et ça ne pose pas de problème non plus. Donc il n'y a pas eu de problème de cohabitation de ce point de vue-là. Il y a eu, en revanche, un certain nombre de conflits fonciers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont pu dégénérer parfois en des massacres. Mais à l'échelle du pays, disons que le poison de l'ivoirité a été instillé sur la scène politique, mais ne s'est pas traduit par un conflit d'ampleur au sein des populations ivoiriennes. En 1999, finalement, Bédié va être renversé par un coup d'État. Alors en fait, entre-temps, le régime de Bédié s'est considérablement révélé être très prédateur, avec notamment beaucoup de détournements de l'aide de l'Union européenne. Mais Paris va fermer les yeux sur tout ça. Paris ferme les yeux sur le problème de l'ivoirité. Paris ferme les yeux sur les détournements du gouvernement de Bédié. En revanche, l'Union européenne va finir par taper du poing sur la table. Et finalement, donc, lorsqu'en 1999, Bédié est renversé, il est très largement déconsidéré au sein de la population ivoirienne et au niveau international aussi. il y a une junte militaire qui va se mettre en place avec un général, le général Guéhi, qui va assurer la direction de cette junte militaire. Alors donc, le coup d'État a lieu à la Noël 1999, donc on surnomme le général Guéhi le Père Noël, et lui promet qu'il est là pour balayer la maison Côte d'Ivoire, qu'il va organiser des élections en l'espace de moins d'un an. Il promet de ne pas se présenter à l'élection présidentielle et que tous les candidats qu'il souhaite pourront se présenter. En fait, assez rapidement, le général Guéhi va se révéler sous un jour un petit peu différent. Lui, finalement, aura des ambitions présidentielles. Mais surtout, au mois de juillet 2000, ce qui était jusque-là une loi électorale va être inscrit dans le marbre de la Constitution ivoirienne. C'est-à-dire qu'il propose aux Ivoiriens une nouvelle constitution qui est soumise à référendum, et l'article 35 de cette constitution stipule que pour être candidat à l'élection présidentielle, il doit être ivoirien, de mère ivoirienne et de père ivoirien. Donc loin d'avoir résolu le problème au niveau des élections, au contraire, il l'accentue. Et finalement, à l'automne 2000, il se présente lui-même à l'élection présidentielle. Et face à lui, Bédier, qui n'habite plus en Côte d'Ivoire, qui a fui après son renversement, ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, Ouattara non plus, et il n'y a que Gbagbo qui fait figure d'opposant ayant un certain poids, qui se présente. Alors on dit qu'il y aurait eu un accord secret entre les deux hommes pour se partager le pouvoir. En tout cas, le général Gay souhaitait conserver le pouvoir, on s'en doute bien. Il y a à peu près seulement un tiers du corps électoral qui va se déplacer pour les élections. En tout cas, la majorité des Ivoiriens vont voter pour écarter le général Guéhi et donc vont voter pour Laurent Gbagbo. Alors là, il va y avoir une dizaine de jours où les événements assez graves vont se passer à Abidjan. D'une part, il y a des partisans, des militaires qui sont toujours partisans du général Guéhi qui vont descendre dans la rue pour qui lui permettent de rester au pouvoir. Il y a des partisans de Laurent Gbagbo qui descendent dans la rue pour faire valoir sa victoire, et il y a des partisans d'Alassane Ouattara qui descendent dans la rue pour réclamer des élections enfin libres et transparentes. Et donc c'est dans ce contexte assez terrible que finalement Laurent Gbagbo accède au pouvoir. En fait, Paris va reconnaître assez facilement la victoire de Laurent Gbagbo. Alors je vais revenir en arrière sur ce qui s'est passé en 1999. Et en 2000, en faisant le lien avec ce qui se passait politiquement en France. Donc, c'était Chirac qui était le président de la République en France. Chirac avait depuis très longtemps des liens extrêmement forts, d'abord avec Houphouët-Boigny, puis avec Henri Colombédier. C'était aussi d'ailleurs le cas de François Mitterrand. Aux yeux de Paris, ce qui primait et ce qui prime encore très souvent, c'est la continuité. Donc on peut se demander comment se fait-il qu'on ait laissé Bédier se faire renverser, comment est-ce qu'on a pu reconnaître la victoire de Laurent Gbagbo assez facilement en 2000. La raison, c'est qu'on était dans un régime de cohabitation en France. Donc en 1999, il semble que Jacques Chirac souhaitait une intervention de l'armée française pour rétablir Bédier sur son siège présidentiel, mais c'était Lionel Jospin qui était le Premier ministre, c'était un gouvernement de cohabitation, donc avec un gouvernement PS, et la politique africaine de Jospin était résumée sous la forme d'une expression « ni indifférence, ni ingérence ». Et donc on dit que Jospin a dit niet à Chirac et a refusé que les soldats français rétablissent Bédier en 1999. De la même manière, Jospin n'était sans doute pas mécontent que le Front populaire ivoirien accède au pouvoir, puisque c'est un parti qui fait partie de l'international socialiste. Et quand on sait les histoires de financement, justement, de campagne électorale, ce n'est sans doute pas une mauvaise chose que ce ne soit pas quelqu'un proche de la droite française qui accède au pouvoir à Abidjan. Voilà, toujours est-il que c'est souvent à la lumière des événements politiques qui peuvent se passer en France qu'on peut aussi comprendre certaines choses sur la politique française en Afrique. Alors le gouvernement de Laurent Gbagbo, notamment par la voix de son ministre de l'économie, Mamadou Koulibaly, va être assez peu conciliant avec les intérêts français, puisque ce ministre de l'économie va faire des déclarations enflammées contre le franc CFA. Par ailleurs, depuis longtemps, depuis l'époque de Médier, il était question de construire un troisième pont à Abidjan. Et sous Médier, il est à peu près acquis que ce serait le groupe Bouygues qui construirait ce pont. Lorsque Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, son gouvernement décide de lancer un appel d'offres au niveau international. Et c'est plutôt un groupe chinois qui semble emporter le marché. Donc ça, c'est autant de signes, en tout cas, qui sont envoyés à Paris, comme quoi Laurent Gbagbo compte peut-être pas faire une rupture nette et franche avec l'ancienne colonie, mais en tout cas, a envie de prendre une certaine indépendance par rapport à Paris. Alors ça explique sans doute un certain nombre de déstabilisations qui vont avoir lieu. Il y a une première tentative de coup d'État en janvier 2001 contre Laurent Gbagbo, qui tourne court assez rapidement. Mais Laurent Gbagbo comprend le signal qui lui est envoyé et il va démettre son ministre de l'économie, Mamadou Coulibaly, et il va en faire le président de l'Assemblée nationale. Alors c'est pas tout à fait innocent non plus, parce que s'il arrive quelque chose à Laurent Gbagbo, c'est son président de l'Assemblée nationale qui deviendra le président. Mais en tout cas, il le retire du ministère de l'économie. En septembre 2002, il y a à nouveau une tentative de coup d'État qui échoue à renverser Laurent Gbagbo à Abidjan, mais qui réussit à prendre deux villes du nord et du centre-nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Korogo et la ville de Bouaké. Et Bouaké va être le fief d'une rébellion qui va durer pendant à peu près une dizaine d'années. En fait, quelle va être l'attitude du pouvoir ivoirien à ce moment-là, c'est de dénoncer une rébellion qui vient du Burkina Faso, et je vais vous expliquer pourquoi, et de demander à la France d'appliquer l'accord de défense dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'accord de 1961, qui stipulait que les forces françaises passaient en Côte d'Ivoire, mais devaient défendre la Côte d'Ivoire en cas d'agression extérieure. Et la réponse de la France, ça va être de considérer que non, il s'agit d'une crise purement ivoirienne, et que c'est aux hommes politiques ivoiriens de résoudre la crise et que l'armée française ne va certainement pas réduire cette rébellion. En fait, la diplomatie française va tout faire, en l'espace de quelques semaines, pour arracher un accord de cessez-le-feu entre les forces loyalistes et les rebelles qui se sont installés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et l'armée française va se déployer le long d'une ligne de cessez-le-feu qui va diviser en deux la Côte d'Ivoire, qui la coupe d'est en ouest. Pourquoi est-ce qu'il y a des accusations disant que la rébellion viendrait du Burkina Faso? En fait, au moment où le général Gueye a décidé de se présenter à l'élection présidentielle, en 2000, un certain nombre de militaires de son entourage sont absolument contre ce tournant de la junte. Ça va dégénérer en un conflit armé entre certains militaires et certains vont devoir s'exiler. Certains sont arrêtés, certains sont tués de la part des hommes du général Guéhi, et d'autres doivent s'exiler, et notamment un militaire ivoirien qui s'appelle Ibrahim Koulibaly, surnommé Libé, va être officiellement reçu à Ouagadougou, au Burkina Faso voisin, où il a un statut officiel d'exilé, et donc il occupe l'une des villas qui lui est donnée par Descombaoré. Et en fait, c'est autour de ce militaire ivoirien que va se former un embryon de rébellion qui va ensuite voir le jour en septembre 2002. Donc voilà un petit peu la genèse de cette rébellion. Elle se situe effectivement au Burkina Faso. Il y a un certain nombre d'autres indices qui montrent que le Burkina Faso a joué un rôle extrêmement important dans la genèse de la rébellion et tout au long de la rébellion qui va suivre pendant une dizaine d'années, comme je vous le disais. Donc il va y avoir des tensions extrêmement fortes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso voisin, mais aussi entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac à un niveau personnel. C'est-à-dire que Jacques Chirac a toujours pensé que Gbagbo était absolument illégitime, qu'il était arrivé au pouvoir par un concours de circonstances, et qu'il fallait sans doute s'en débarrasser. Alors ça ne peut pas se faire de manière si ouverte que ça, donc c'est pour ça qu'il y a sans doute eu une rébellion qui a été mise sur pied. Si elle n'a pas été mise sur pied par les Français, en tout cas, il n'est pas possible que les services français n'aient pas eu vent de ce qui se passait au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est aussi une ancienne colonie française. Aujourd'hui, les forces spéciales sont présentes de manière officielle à Ouagadougou. C'est un pays extrêmement fort d'un point de vue militaire dans la coopération entre la France et le Burkina Faso. Alors donc, quelle va être l'attitude de la diplomatie française? C'est donc, je vous l'ai dit, d'instaurer une ligne de cessez-le-feu entre la rébellion et les forces royalistes. Et on va inviter les différents leaders politiques ivoiriens et les leaders de la rébellion à Paris, en fait dans la banlieue parisienne, à l'INAS Marcoussi, en janvier 2003, pour qu'il y ait des négociations directes. Alors, en fait, ces négociations, elles vont être très fortement sous l'influence française. Et les accords qui vont sortir en janvier 2003, donc les accords dits de l'INAS Marcoussi, prévoient qu'un certain nombre de rebelles accèdent à des portefeuilles ministériels, notamment les portefeuilles de la Défense et le ministère de l'Intérieur, ce qui paraît absolument incroyable, ce qui sera pas possible de réaliser, puisque, sitôt rentré à Abidjan, Laurent Gbagbo, ou plutôt ses supporters, les jeunes patriotes, vont dénoncer ces accords et vont demander aux Ivoiriens de descendre dans la rue, et ça va être les premières manifestations anti-françaises en janvier 2003 à Abidjan. Donc finalement, les rebelles vont avoir d'autres portefeuilles ministériels. Alors évidemment, il y a quand même une contrepartie dans ces accords, il y a notamment un volet de désarmement pour les rebelles. Et en fait, ça va être l'arlésienne de cette longue crise avec la rébellion. Sans cesse, les rebelles vont repousser le moment du désarmement. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, de 2003 à 2010, il n'y aura jamais de désarmement. Et en 2010, on va nous faire croire qu'il va y avoir une sortie pacifique de la crise ivoirienne en faisant des élections en Côte d'Ivoire. Alors même que le pays est toujours coupé en deux, le Nord est toujours détenu par une rébellion toujours en armes, et que les forces royalistes n'accèdent qu'à ce qui se passe dans le sud du pays. Donc en 2010, on explique à la fois aux Ivoiriens et à l'opinion française que voilà, il y aura une sortie par les élections et que c'est la meilleure manière de résoudre la crise ivoirienne. En fait, on sait notamment par des rapports de l'ONU que quelques mois avant les élections, la rébellion s'est fortement réarmée dans la perspective des élections. Et ce rapport de l'ONU a été mis au placard pendant quelques mois, c'est-à-dire qu'il n'a été sorti officiellement qu'après la fin de la crise post-électorale, c'est-à-dire lorsqu'on a retiré Laurent Gbagbo du pouvoir. Donc il est à peu près clair que les élections de 2010 les différents acteurs savaient que ça allait déboucher sur un conflit armé, et non pas par une résolution pacifique. Alors, mais il y a un autre épisode qui a eu lieu en 2004 et qui est pour nous l'épisode le plus criminel de l'armée française en Côte d'Ivoire. En 2004, des militaires autour de Laurent Gbagbo n'en peuvent plus, constatent que la rébellion refuse de désarmer, et donc ces militaires veulent lancer une offensive sur le nord de la Côte d'Ivoire pour reprendre le nord du pays. Alors ça va d'abord être une offensive aérienne. Il y a des bombardements qui sont menés. Mais lors du troisième jour, où les bombardements s'accompagnent là d'une offensive au niveau terrestre, qui arrive aux abords dans la banlieue de Bouaké, le fief rebelle, en fait il y a l'un des bombardements qui va toucher un camp militaire français. Donc ce camp militaire français, il va y avoir 9 militaires français qui décèdent, ainsi qu'un civil américain. Et là, ça va être le début d'un engrenage assez terrible en l'espace de 3-4 jours. D'abord, l'armée française va recevoir l'ordre de détruire les moyens aériens de l'armée ivoirienne. Donc on détruit les 2 avions qui ont mené les bombardements, on détruit les hélicoptères de l'armée ivoirienne. Face à ça, il y a une réaction au niveau des jeunes patriotes à Abidjan, où des leaders vont faire des déclarations à la télévision pour alerter les Ivoiriens de ce qui vient de se passer, à savoir la destruction des moyens de l'armée ivoirienne. Et donc, ils encouragent les Ivoiriens à descendre dans la rue pour demander à l'armée française de quitter le pays. Effectivement, de nombreux Ivoiriens vont descendre dans la rue, vont se diriger vers le camp militaire français, vont se diriger devant l'aéroport d'Abidjan, parce que en plus les militaires français ont pris possession de l'aéroport d'Abidjan, parce que c'est la porte de sortie pour les expatriés. Donc nombreux sont les Ivoiriens qui descendent dans la rue, bien au-delà des supporters de Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, il y a des images de Canal Plus qui montrent que le soir du 6 novembre, des hélicoptères français de nuit mitraillaient les ponts d'Abidjan pour empêcher la foule de progresser vers le camp de Port-Boué et vers l'aéroport d'Abidjan. En fait, en l'espace de quelques jours, il va y avoir une 60aine de morts de civils ivoiriens morts sous des balles françaises. Un deuxième endroit où les soldats français vont tirer sur les foules ivoiriennes, c'est devant l'hôtel Ivoire. Donc l'hôtel Ivoire, c'est l'un des hôtels qui fait la fierté des Abidjanais, un très grand hôtel qui domine la lagune de Brié, qui n'est pas très loin de la résidence de Laurent Gbagbo. Et c'est autour de cet hôtel qu'une colonne de blindés français va stationner pendant 2 jours. Et là encore, les manifestants ivoiriens vont venir face à ces blindés pour leur demander de quitter cet endroit. Et l'armée française va finir par tirer sur les manifestants. Donc là encore, il y a des images de Canal+, qui sont... Alors, ce n'est pas des images filmées par Canal+, c'est des images filmées par une télévision ivoirienne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette télévision ivoirienne, elle a proposé ces images-là à l'ensemble des télés françaises. Elles ont toutes refusé de diffuser les images, sauf Canal+. Et encore, Canal+, a eu des difficultés, n'a pas pu rediffuser l'émission comme c'était programmé normalement toutes les semaines. L'image qu'on a pu donner de ces journées-là à Paris était très différente. On s'est focalisé sur le problème des expatriés. C'est vrai que parmi les manifestants ivoiriens, un certain nombre ont pillé des villas d'expatriés, certains ont été victimes d'exactions. Mais c'est uniquement ça qu'on a montré dans les télévisions françaises, pour l'essentiel. Et ce qu'on a pu voir à l'époque, c'était des vols qui étaient mis en place pour évacuer les expatriés français et les accueillir à Roissy.
Love is a dangerous game to play with, a battle where only one side wins. Toy that is so easily broken, rules that are only make-believe. loser a doll you once held so close, now left unguarded in a forgotten room. The winner, a cheat, his mind's on other things, unrelenting from the beginning, knowing what the result would be.
Ces événements de novembre 2004, nous on considère que là il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis par l'armée française. Et on s'étonne qu'aujourd'hui Laurent Gbagbo soit traduit devant la justice internationale et qu'en revanche rien n'ait été entamé contre les soldats français. Il y a eu quand même une instruction judiciaire qui a été lancée, mais uniquement sur le volet qui concerne le bombardement du camp militaire français. C'est-à-dire que les familles des victimes françaises ont porté plainte devant la justice française. Et il y a eu une très longue instruction qui a commencé en 2004, qui s'est achevée en 2018. Il y a eu un certain nombre de juges qui ont travaillé sur le dossier. Et la dernière juge en date, elle a demandé deux choses. En 2016, d'abord, elle a demandé le renvoi de trois ministres français devant la Cour de justice de la République. C'est Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, c'était Michel Alliomari, ministre de la Défense, et Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères. Pardon. Dominique de Villepin était ministre de l'Intérieur. Alors, ça peut paraître assez curieux que dans un bombardement qui touche des forces françaises, on demande le renvoi de trois ministres français devant la Cour de justice de la République. En fait, dans son ordonnance de renvoi, elle explique que l'instruction montre qu'au plus haut niveau de l'État français, tout a été fait pour empêcher l'éclatement de la vérité. Et notamment, il y a deux moments clés. En fait, le bombardement a été mené par des mercenaires biélorusses. Et ces mercenaires étaient sous contrat avec l'État ivoirien, par l'intermédiaire d'un ancien gendarme français qui s'appelle Robert Montoya, qui est installé au Togo. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, ces mercenaires, lorsqu'ils ont, après le bombardement, ils se sont enfuis vers Abidjan. Ils ont rejoint la base vie de ces mercenaires, de ces mécaniciens ukrainiens et biélorusses à Abidjan. Et lorsque l'armée française a pris position sur l'aéroport, en fait, elle s'est retrouvée à détenir ces personnes-là. Bon, des pièces du dossier d'instruction montrent qu'ils ont très certainement été interrogés. Mais en revanche, elle n'a pas eu accès à l'interrogatoire qui a été fait. Quelques jours plus tard, en fait, Michel Barnier a demandé que ces gens-là soient remis au consulat de Russie, c'est-à-dire qu'on les libère. Donc ça, c'est une première chose, visiblement. Ces mercenaires qui étaient liés au bombardement, on les laisse partir une première fois. Quelques jours plus tard, ils ont voulu rejoindre Robert Montoya au Togo. Ils ont été arrêtés à la frontière togolaise. Et les douaniers togolais n'ont pas cru à la version de ces personnes qui entendaient se faire passer pour des ouvriers agricoles. Et donc, les autorités togolaises ont faxé les passeports de ces personnes à Paris en leur demandant, voilà, nous les tenons à votre disposition. Ils ne sont sans doute pas étrangers à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous les détenons. Et en fait, il y a eu un silence radio de Paris. C'est-à-dire que les deux ministères qui ont été contactés, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, ont été silencieux, ça signifiait qu'il fallait les laisser partir. Donc voilà les deux choses très importantes au niveau du bombardement de Baké qui font dire à la juge que tout a été fait pour qu'on ne connaisse pas le véritable commanditaire du bombardement de Baké. Et là j'en viens à la version du principal avocat des victimes françaises, Maître Jean Ballon, qui a fait un énorme travail pour décortiquer le dossier. Et lui est aujourd'hui persuadé qu'il y a eu de fausses informations envoyées depuis Paris pour faire croire qu'il y avait une réunion de chefs rebelles dans un endroit isolé du camp militaire français. Le but étant de provoquer un bombardement d'un endroit isolé, donc il n'y aurait pas dû y avoir de mort de soldats français, mais ce bombardement aurait pu servir de prétexte pour renverser Laurent Gbagbo. Et ce qui vient accréditer cette thèse, c'est qu'on sait que la colonne de blindés qui s'est mise devant l'hôtel d'Ivoire, auparavant, elle s'est égarée, ça c'est la version officielle, elle s'est égarée pendant de longues heures devant la résidence de Laurent Gbagbo, en 2004, avant finalement de repartir. En fait, on sait aussi, dans le dossier d'instruction, que dans l'un de ces blindés se trouvait un général ivoirien, qui était sans doute là pour prendre le pouvoir à la place de Laurent Gbagbo, mais qui s'est dégonflé. Il s'est dégonflé parce qu'il a eu vent de ce que de nombreux Ivoiriens étaient dans les rues à Abidjan et qu'il n'était pas possible de prendre le pouvoir dans ce contexte-là. Donc voilà ce qui s'est passé en novembre 2004. Alors quand on dit voilà ce qui s'est passé, il reste encore beaucoup de zones obscures et c'est très difficile de comprendre comment est-ce qu'une manipulation française aurait pu déboucher sur des morts de soldats français. Mais voilà ce qu'on en sait à l'heure actuelle. En tout cas, en revanche, sur les 60 morts... Les 63 morts, pour être précis, c'est le bilan officiel tombé sous les balles françaises à Abidjan, il n'y a eu aucun volet judiciaire, ni au niveau de Paris, où un procureur aurait dû se saisir de cette affaire, ni au niveau de la CPI. D'accord ? Et bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai déjà été très long, mais je pense qu'on pourra aussi aborder des questions plus en lien avec l'actualité ivoirienne et le contexte d'aujourd'hui.
Pardon, j'ai juste une question avant de passer le micro à la salle. Il n'y a pas eu de suite judiciaire sur les morts par balle de l'armée française en Côte d'Ivoire non plus?
Alors en Côte d'Ivoire, au tout début, en décembre 2004, dans l'entourage de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont constitué un dossier pour porter l'affaire devant la justice internationale, mais il semble que Laurent Gbagbo ait voulu garder le dossier sous le coude. En fait, Laurent Gbagbo a toujours considéré que ses rapports avec Jacques Chirac étaient absolument terribles. Il a toujours voulu se ménager d'autres alliances, notamment avec des patrons français, notamment. Et donc, il s'est mis, après la première période où il a été plutôt pour prendre ses distances avec les milieux économiques français. En fait, assez rapidement, lui s'est mis aussi à accorder des marchés de gré à gré avec des groupes français. Et donc, il a gardé sous le coude, notamment cette affaire de novembre 2004. Il y a eu une enquête sud-africaine qui a été menée pour établir, donc c'est une enquête balistique qui établit que les armes utilisées pour tuer les Ivoiriens étaient bien des armes françaises. Et finalement, Laurent Gbagbo avait mandaté un cabinet d'avocats canadiens pour négocier des réparations pour les victimes ivoiriennes avec l'Élysée. Et en fait, l'Élysée a toujours louvoyé et finalement, le dossier a été complètement enterré. Donc voilà, il n'y a pas eu de suite judiciaire non plus à Abidjan, malheureusement.
John's in love with Joan. Joan's in love with Jim. Jim's in love with someone. Not in love with him. What was meant to be must be. C'est la vie, c'est la vie. don't always conquer the one you're dreaming of. As they say in old Paris, c'est la vie, c'est la vie. Those who fall in love agree. It's the unsolved mystery. If your big romance cannot be, you'll find someone else, Sherry. There goes Happy Jane. She just found a sweetheart, but no one's gonna cry. Though she stole his love from me, c'est la vie, c'est la vie.
Eh bien, c'était donc la conférence donnée par David Mauger à Toulouse à propos de son livre « Un pompier pyromane » paru chez Agone et coécrit avec Raphaël Granvaux, je vous rappelle. Incollable David Mauger. Pressé de questions, il a ensuite étendu son discours jusqu'aux années 40 avec la même passion qui lui a fait nous tenir en haleine pendant plus d'une heure, sans notes, les yeux dans les yeux d'un public scotché. On peut poursuivre cette histoire avec le livre de Fanny Pigeot, journaliste de Mediapart, qui a rédigé un brûlant pavé au début de l'incarcération de Gbagbo à La Haye. C'est « France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée » aux éditions Vent d'ailleurs. Fanny Pigeot a très largement participé, depuis la création du journal en ligne, au gros dossier de Mediapart sur la Côte d'Ivoire, lequel redeviendra en 2019 d'une actualité première avec la libération attendue de Laurent Gbagbo. Nous vous remercions tous de votre écoute et de votre compréhension pour les débuts chaotiques, mais on vous promet, c'était vraiment pas de notre faute.